France Culture, les matins du samedi, Quentin Lafay.
Transfuge de classe, l'expression est en vogue dans les discours littéraires, artistiques, politiques, avec cette singularité. Transfuge est à la fois une notion objective qui plonge ses racines dans les sciences sociales et un discours de soi, sur soi, subjectif et malléable. Alors qu'est-ce que cette notion recouvre? Quel lien entretient-elle avec l'écriture, avec les récits qui l'accompagnent et quelles critiques lui adresser? Pour en parler, je reçois ce matin deux chercheuses, Laëlia Véron, bonjour.
Bonjour.
Et Karine Abivin, bonjour. Vous êtes toutes les deux maîtresses de conférences en langue française et stylistique. Et vous publiez ensemble cet ouvrage important, Trahir et venger, paradoxe des récits de transfuges de classe. C'est aux éditions de La Découverte. Et pour commencer, peut-être, on va venir bien sûr à cette définition complexe de l'expression transfuge de classe. Mais quand est-ce que son recours, son usage se multiplie, Laëlia Véron?
Eh bien, l'expression, elle date des années 80, mais son usage va se multiplier, notamment avec l'influence d'Annie Ernaux, plutôt vers la fin des années 2000, et puis on a une explosion dans les années 2010, et puis les années présentes, c'est vraiment un archi-usage contemporain de cette notion dont chacun se saisit et va finalement mettre une définition assez subjective, alors qu'au départ, c'est un concept sociologique, comme vous l'avez dit.
Qu'est-ce qui vous a poussé, en tant que chercheuse, à vous intéresser à cette notion, au fond? Qu'est-ce qui vous attire dans le travail qu'elle recouvre?
Alors, beaucoup de choses. Déjà parce que c'est une notion au départ universitaire et assez complexe qui a finalement irrigué le débat public. Et c'est assez rare que des notions scientifiques aillent comme ça se répandre, deviennent à la base de beaucoup de récits de soi. Et puis aussi le fait que, justement, elles se répandent dans des espaces de discours très différents. Quand on pense à récits transfuges de classe, on pense à Annie Ernaux avec le Nobel de littérature en 2022. On pense à la sociologie avec certains noms, peut-être à l'histoire. Mais on s'est aperçu que cette étiquette et ce récit se répandaient aussi, par exemple, dans les médias, qui le proposent beaucoup. C'est un récit journalistique dans d'autres sphères de discours, par exemple dans le récit de soi, dans le stand-up, dans la comédie, dans le récit de soi sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram. Justement, c'est ce parcours de ce récit et de cette étiquette dans ces sphères de discours et la manière dont elles s'influencent qui nous intéressait.
Alors pour tenter de comprendre le cheminement de cette notion, tentons de revenir à sa source avec vous, Karine Abivin. Qu'est-ce que cela signifie, transfuge de classe, du point de vue, cette fois-ci, des sciences sociales?
Alors dans les sciences sociales, c'est en effet une catégorie savante et une manière de décrire une mobilité sociale de grande amplitude ou un individu qui parcourt un tel trajet. Alors soit par l'acquisition d'un capital culturel et symbolique, c'est le sens qu'il a le plus souvent en français tel qu'on le voit dans la littérature par exemple, mais ça peut aussi être un capital économique dans l'emploi courant du terme. Et donc c'est à la fois, on l'a vu, une manière de percevoir un parcours personnel et donc une manière de voir ce parcours de mobilité sociale via un filtre individuel et donc bien souvent des affects. Et ce qu'on va retrouver associé à ces récits, quel que soit l'espace de discours dans lesquels ils sont prononcés, c'est des affects comme le sentiment d'imposture, le conflit de loyauté avec les parents, parfois la honte, et puis la honte d'avoir eu honte quand on s'est aperçu qu'on avait mal jugé au fond son milieu d'origine, l'insécurité culturelle et linguistique, etc. Donc il y a un investissement affectif qui est important dans ces récits.
Comment est-ce qu'on mesure concrètement ce parcours de mobilité? Quel est le point de départ? C'est la profession du père, de la mère? C'est la profession du grand-père, de la grand-mère? Jusqu'où on remonte?
Eh bien, en sciences sociales, c'est un sujet polémique, parce que les sociologues ne sont pas forcément d'accord entre eux. Nous, on se disait quand on avait commencé notre recherche, qu'on va faire l'objectivation avec la sociologie, la subjectivation avec les récits. En réalité, c'était plus compliqué que ça. Parce que même en sociologie, il y a eu beaucoup de débats, justement. Est-ce qu'on a pris d'abord la mesure par rapport au père? Et puis après, on s'est dit qu'il fallait peut-être le prendre aussi par rapport à la mère, par rapport à quel âge aussi, et effectivement quel capital on met en avant, est-ce qu'on mesure l'amplitude par rapport au capital économique, par rapport au capital culturel. Il y a beaucoup de débats là-dessus en sociologie, et ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même souvent mesuré plutôt par rapport aux parents, alors que dans les récits de soi, souvent pour mesurer son amplitude sociale et peut-être pour la fantasmer, on va faire plus large, on va remonter jusqu'aux grands-parents. Et finalement, il y a une divergence entre l'analyse sociologique et les récits de soi qui pourtant se fondent sur un concept sociologique. Karine Abivin disait tout à l'heure les affects dans les récits de soi, les affects négatifs. Et ben, les enquêtes de terrain sociologique montrent que les parcours de mobilité ne sont pas forcément associés à des les affects négatifs. Donc, au fait, finalement, rapidement, on a une divergence entre les études de sociologie et ces récits-là, parce que ces récits-là vont montrer des trajectoires sociales linéaires, spectaculaires, alors que la sociologie va plutôt montrer que la mobilité sociale, déjà, est plutôt faible. Et ensuite, quand elle existe, elle n'est pas aussi linéaire et elle est souvent de plus faible amplitude. Et elle n'est pas forcément associée à ces affects négatifs. Donc, encore quelque chose d'intéressant. Comment des récits à ce point irrigués d'un concept sociologique finalement finissent par s'éloigner fortement des enquêtes de terrain sociologique.
Et oui, car on le disait, c'est ça qui est passionnant également dans cette notion, c'est sa dimension objective liée aux sciences sociales et le récit que l'on fait de soi. Je voudrais vous faire entendre justement l'un de ces récits.
C'est marrant parce que je trouvais pas du tout que le succès efface la provenance du tout. Je trouve que tout était saillant. Ouais. J'étais d'un seul coup à des dîners où j'avais des, on parle de rage ou de colère, mais j'avais des colères que j'arrivais même pas à expliquer. Et c'est qu'en fait, je pense que je me suis rendu compte que même dans mon corps, même dans, il y a une mémoire des muscles de la classe ouvrière que moi j'ai dans mon corps où je parle pas de la même façon au serveur, je regarde les femmes de ménage. Il y a des gens qui ne les regardent même pas, ces gens-là. Et d'un seul coup, je me retrouvais entourée de gens pour qui c'était même plus des réalités. Ces gens-là n'existaient plus. Et je me trouvais dans des colères terribles où je savais pas quoi faire de cette drôle de place qui était la mienne. Mais d'ailleurs, les gens avec lesquels aussi je m'entends bien dans ces nouveaux milieux dans lesquels je suis, sont des gens qui ont la même histoire que moi aussi, qui sont des transfuges de classe.
L'artiste Christine and the Queens dans l'émission Click dimanche sur Canal+, c'était en 2018. C'est un témoignage, un récit qui soulève énormément de questions en lien avec vos travaux de recherche à toutes les deux. Une réaction peut-être, Laëlia Véron, sur ce discours-là?
Oui, ça fait partie des discours qui ont été assez critiqués et moqués, notamment avec le discours « Je sens encore dans mes muscles la mémoire de la classe ouvrière ». Mais ce que je voudrais souligner, c'est que dans mon souvenir, c'est au départ le journaliste qui lui propose cette catégorie, qui lui dit « Vous êtes transfuge de classe ». Et après, c'est repris effectivement dans la réponse. Mais c'est aussi une injonction journalistique dans les récits de soi, dans la manière de se définir et de se raconter, de proposer cette étiquette de transfuge de classe. Et elle est assez séduisante, visiblement, parce que souvent les personnes interviewées ont du mal à ne pas dire oui, parce que, sans doute, parce que ça permet à la fois de donner une conscience sociale, de se rattacher aux classes, aux collectifs, et en même temps de mettre en valeur un parcours exceptionnel, et on aime bien être exceptionnel.
Vous l'avez soutenu, c'est le journaliste qui pose cette question-là, Karina Bivin. Quel rôle a joué le champ médiatique plus largement dans la diffusion de cette notion de transfuge de classe?
Ça, c'est quelque chose qui nous a intéressé et surprise aussi quand on a regardé un peu les chiffres. On a interrogé un corpus de presse, alors surtout de la presse écrite, assez large, plus de 150 titres de presse, et on s'est aperçu que le mot, il avait eu un emploi qui augmente beaucoup. En 2015, on le trouve deux fois, et puis les deux dernières années, au moins 300 fois. Donc c'est un mot qui est devenu une sorte de, peut-être, de prêt-à-penser d'un certain nombre de phénomènes. Et ça montrait bien, finalement, la disproportion entre le nombre de récits de transfuges, qui n'est pas non plus incroyable, il y en a plusieurs dizaines, mais sans plus. Et par contre, cet emploi assez fréquent dans les médias, qui devient une sorte de script médiatique, ou c'est une sorte de scénario qui est commode pour prendre en charge la violence entre les classes, mais aussi les thèmes comme la réussite, par exemple, comme l'école. Ça, c'est capable de se saisir de plusieurs thèmes qui intéressent probablement, alors, notre société, mais sans doute certains médias, en fait. Mmh. C'est ça aussi qui nous a intéressés.
Lesquels, plus exactement ?
Alors, le tiers des emplois, c'est Le Monde, de la presse écrite, Le Monde, L'Obs et Libération. Donc c'est assez clair, en fait, qui s'intéresse à ça. C'est pas tout le monde qui parle des transfuges de classe.
Je pense que France Culture s'en est aussi largement intéressé. On l'imagine, en tout cas. Notre autocritique. Qu'est-ce qui nous intéresse nous-mêmes dans cette dimension-là? C'est le fait d'avoir des parcours de vie, des récits exceptionnels, le fait qu'on puisse aussi lier des trajectoires individuelles à l'expression, à l'explication du champ social.
C'est bien, vous faites une bonne autocritique. Oui, je pense que ça permet à la fois de dire on parle de sujets de société, ça résonne, on fait du collectif, et en même temps ça permet de toujours parler de récits exceptionnels, ce qui peut être agréable pour la personne invitée, et puis ce qui est aussi un type de récit qui est très commun, la rupture, l'événement qui a changé ma vie, le retournement de situation, parce que on a envie, et peut-être qu'on a besoin aussi, effectivement, d'avoir des récits qui nous surprennent. Et transfuge de classe permet de lier un peu les deux, aussi bien pour les personnes qui s'en réclament, c'est dire quand même je suis dans des classe sociale, mais je suis différent et on aime bien toujours être un peu différent, ne pas être dans une case. Et sans doute pour les médias, c'est une manière de dire sujet de société, résonance avec les sujets de société, mais aussi quand même surprise, exceptionnalité, possibilité de retournement de situation, d'événement. Ça allie peut-être à la fois l'événement justement et la stabilité de la société. Donc c'est peut-être pour ça que ça devient une étiquette séduisante pour tout le monde.
Alors un champ en particulier a particulièrement investi, si je puis dire, cette expression, celle de transfuge de classe, c'est évidemment le champ littéraire. De quelle manière, de quelle façon, Carina Bivin ?
Alors, d'une part, parce que c'est Annie Ernaux qui, la première, a diffusé ce terme hors du champ strict du vocabulaire sociologique, mais en étroite liaison avec ce champ. C'est-à-dire qu'elle explique qu'elle a eu connaissance du mot transfuge de classe en écoutant le séminaire de Passeron et Grignon, qui a donné un livre qui s'appelle Le savant et le populaire, qui est très important pour penser cette question, en fait, de la manière dont se racontent les liens entre les dominés et les dominants, pour le dire vite. Et donc, Annie Ernaux entend ce mot et elle dit, ça étiquette exactement ce que j'ai envie de saisir par la littérature. Et donc elle écrit La Place en 1983, puis La Honte quelques années plus tard, et ça va devenir une thématique fondamentale dans son œuvre. Et elle le reprend, alors en le modérant et en le nuançant aussi, dans son discours du Nobel en 2022, où elle dit « Depuis que j'écris, c'est cette question du transfuge de classe qui m'intéresse, j'ai cru que ma victoire individuel en écrivant pouvait être une victoire collective, ai-je réussi ? Et donc elle met quand même en question en fait cette articulation du singulier et du collectif par l'écriture très récemment. Enfin, elle y réfléchit en tout cas.
On parle toujours de Annie Ernaux comme un tournant, c'en est un, il est absolument majeur. Pourtant, la thématique du transfuge de classe, elle est présente dans les romans et ce depuis bien longtemps. On pense à de nombreux romans du 19e siècle raconter le destin individuel d'une personne qui change de milieu géographique, qui change de classe sociale. C'est quelque chose de très très courant, non, Laëlle Averon ?
Oui, je pense qu'il faut un peu différencier les récits de la mobilité sociale et les récits des transfuges de classe qui se rejoignent mais qui ont des différences. Les récits de la mobilité sociale, effectivement, qui vont mettre en scène, par exemple, dans les romans d'apprentissage, typiquement, c'est un jeune homme qui vient de province, qui va à Paris, qui découvre des milieux sociaux. C'est Illusion perdue de Balzac, ce genre de choses.
Mais que la bourgeoisie va pervertir.
Que la bourgeoisie va pervertir et qui ne va pas réussir, d'ailleurs, parce qu'on dit toujours Rastignac, transfuge de classe, pas du tout. Rastignac, il réussit grâce à sa famille, grâce à son nom. Lucien de Rubempré ou Lucien Chardon dans Illusion perdue, qui justement n'a pas ce capital, et ben lui, il ne réussit pas. C'était la petite parenthèse balzacienne, mais pour répondre à la question, ces récits de mobilité sociale vont souvent être mis à la troisième personne, contrairement aux récits de transfuge de classe qui ont une mobilisation interne à la première personne le plus souvent. Et je pense que la grande différence, c'est aussi, ce sont des récits alors d'ascension sociale qui de fait se passent bien, contrairement par exemple à Illusion perdue, contrairement à Antoine Bloyer, contrairement à Martin Eden de Jack London, mais qui vont être liés à des affects négatifs. Donc on a des récits de réussite sociale, mais liés à des affects de honte, d'imposture, de tension justement entre la réussite individuelle et le collectif. Donc c'est ce changement-là, à mon avis, qui est majeur, la focalisation interne et la réussite liée à des affects négatifs.
Au fond, se raconter transfuge de classe dans le champ littéraire, c'est d'abord et avant tout faire un récit de soi ?
Oui, de fait, c'est quand même la constante de ces récits et ça va dans un mouvement plus large des récits de soi. Je pense que le succès aussi du récit vient du fait qu'il va intégrer plusieurs influences, le récit de soi à la première personne, le récit de mobilité sociale, à la fois l'influence sociologique, à la fois le schéma type du self-made man, le roman d'apprentissage. Tout ça, au fait, est un peu mélangé dans le récit de transfuge de classe, qui a des ambitions qui sont intéressantes, liées justement le subjectif, le sociologique, le collectif, l'individuel, mais c'est une ambition qui rencontre aussi des limites dans sa réalisation.
Une voix critique, justement, de ce type de récit individuel.
Il n'y a pas de plus belle quête que de partir à la rencontre de soi-même. Il n'y a pas de plus grand danger qui nous guette au coin, à l'horizon des narrations. Il y a des tas de narrations, si vous voulez, qui vous tendent la main pour vous égarer. C'est quelque chose qui correspond à une mode narrative. On a un cluster, en quelque sorte, narratif. C'est pas pour rien, parce qu'ils se lisent les uns les autres. Je veux dire, en l'occurrence, Annie Ernaux a eu un choc ontologique en lisant Bourdieu, de la même façon pour Didier Ribon, Édouard Louis à lui Ribon, à lui Ernaud. Enfin, c'est tout à fait logique et je leur reproche pas du tout. Les récits d'Oloris sont très adossés à une forme de fatalisme social. Pourtant, ils sont les contre-exemples de ce fatalisme social, voilà, en quelque sorte. Mais justement, c'est comme s'il fallait payer de façon supplémentaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un héros social sans en même temps embarquer une forme de souffrance sociale. Il y a quelque chose de très christique là-dedans. De toute façon, on se raconte toujours des histoires à propos de soi-même. On est toujours dans une mythogénèse et je ne fais pas exception. Donc je ne m'émets pas sur une tour d'ivoire en jugeant simplement. Il est assez normal pour un sociologue d'être attentif aux obsessions narratives de son temps.
Allez, il y a plusieurs critiques au sein même de la critique exprimée par Gérald Bronner. C'était dans le 7-9 d'Inter en 2023. Décomposons cette critique. La première peut-être ce cluster narratif, selon cette expression. Dans le fond, l'idée qu'un petit groupe de personnes, un petit groupe d'autrices et d'auteurs s'accaparerait la notion de transfuge de classe et remporterait avec ça un succès primordial. Est-ce que c'est vrai ?
Ce qui est intéressant, c'est que Gérald Bronner lui-même a repris ce schéma narratif parce que dans son livre, où il va critiquer les récits transfuges de classe, il nous propose un contre-récit transfuge de classe, mais un récit transfuge de classe quand même. On retrouve les moments types et d'ailleurs il accuse ces récits de dolorisme, mais lui-même dit, il fait une belle prétérition, le fait de dire qu'on ne va pas dire et de le dire quand même, ce qui est très présent dans les récits transfuges. Il dit, mon parcours n'a pas été tout à fait exempt de dolorisme, et il nous raconte une anecdote, effectivement, hein, doloriste, sur la femme qui employait sa mère, qui est de mépris de classe. Donc il dénonce cette séduction de ce schéma narratif, mais il devient un autre exemple de la séduction de ce schéma narratif. C'est ça que je trouve aussi assez intéressant.
Karina Vivant, sur une autre partie de la critique qu'on vient d'entendre, cette idée peut-être que beaucoup de ces récits sont dits doloristes, que les autrices, les auteurs auraient tendance à se victimiser, que pour devenir le héros social de notre temps, le héros social de l'époque, au fond, il faudrait d'abord et avant tout être une victime et le mettre en scène.
Alors ça, c'est effectivement la manière dont Bronner le traite dans son ouvrage Les Origines. Ce qu'on peut peut-être, disons, lui répondre, c'est que en mettant, lui, l'accent beaucoup plus sur la fierté d'avoir réussi dans un milieu intellectuel alors qu'il n'en était pas issu, il met, ce faisant... il fait reculer en fait l'idée d'un conflit social. En fait, tout devient assez irénique finalement. Bah, quand on veut, on peut. Quand on travaille bien à l'école, bah, on peut réussir, même si on n'avait pas les mêmes cartes en main que les autres. Et ça peut être un problème, disons, politique dans son discours. La valeur du mérite est très mise en valeur. À chacun selon son mérite, c'est un des titres de son livre. J'ai dû en faire plus que les autres, etc. Ou encore, il met en lumière hein, des valeurs comme la résilience, l'obstacle. L'obstacle rend créatif, par exemple, qui est un des éléments d'un discours libéral d'aujourd'hui. Donc oui, naturellement, la fierté, mais l'idée des récits transfuges de classe, c'est de mettre aussi en lumière des violences qui sont symboliques et donc invisibles. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre au crédit de ces récits.
Lélia Véron.
Ce qui est compliqué, c'est que effectivement, on peut s'interroger sur la place des affects négatifs, sur l'absence d'ironie, d'auto-ironie, en tout cas la place limitée de l'affect positif dans les récits transfuges. On peut se poser la question de la dimension politique de ces affects. Est-ce qu'il suffit vraiment d'avoir honte pour se tourner vers la honte, d'avoir honte vers la vengeance collective ? Mais de l'autre côté, les critiques à la Gérald Bronner tendent, comme le dit Karina Bivin, à faire comme s'il n'y avait aucun conflit, à faire comme s'il n'y avait plus de conflits entre les classes sociales, que finalement, on peut mener son petit bonhomme de chemin, tout se passe assez simplement. Donc, effectivement, remettre en cause peut-être la surprésence de ces affects doloristes, est-ce qu'il suffit d'avoir un sentiment de culpabilité pour être politiquement engagé ? Ça remet en cause aussi certaines étiquettes contemporaines, l'intime est politique, l'affect est politique, mais peut-être aussi faire attention à la conséquence inverse, ça ne veut pas dire pour autant que le conflit social n'existe pas et que les affects négatifs n'existent pas.
Un autre point qui me paraît intéressant dans les propos de Gérald Bronner, c'est qu'il affirme qu'on se raconte toujours des histoires lorsqu'on se raconte soi-même. Et c'est vrai que la proximité revendiquée entre cette littérature de transfuges de classe et les sciences sociales peut laisser paraître l'idée qu'au fond, le récit que je donne de moi-même est un récit vrai, est un récit juste, est un récit véridique, pratiquement là aussi du point de vue des sciences sociales. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas toujours ce risque-là très bourdieusien, là encore du risque de l'illusion biographique ?
Il y a deux illusions, je pense. L'illusion déjà de l'écriture autobiographique, où on a l'impression qu'elle est forcément authentique. C'est un peu l'idée du pacte autobiographique de sincérité. Encore plus sur certains supports, je pense aux réseaux sociaux, où on a une illusion d'instantanéité. Et puis, il y a l'illusion, effectivement, de la distance sociologique, avec l'idée qu'on pourrait faire son auto-socio-analyse, ce qui, en réalité, paraît assez difficile. Héribon reprochait à Bourdieu de ne pas avoir bien fait son auto-socio-analyse. On pourrait aussi le reprocher à Héribon, parce que, de fait, ce sont des récits à la première personne, qui vont surtout mettre l'accent sur les efforts de la personne, beaucoup plus que sur ses ressources. Et c'est une tendance humaine, hein. On va plutôt mettre l'accent sur nos efforts, sur ce qu'on n'a pas eu plutôt que sur nos ressources. Est-ce qu'on peut vraiment parler de sociologie quand finalement ce sont quand même des trajectoires individuelles assez héroïsantes? On peut penser à Édouard Louis qui raconte comment il s'est auto-transformé. C'est beaucoup plus un mythe libéral qu'une analyse sociologique de dire que tout vient de soi-même finalement, qu'on s'est auto-régénéré.
Mais parler de l'action plutôt que des ressources, c'est peut-être lié aussi à la forme littéraire. On a très peu parlé de forme aujourd'hui, mais pour mettre, pour dessiner un récit, pour attirer le lecteur, il faut bien qu'il y ait un peu d'action.
Pardon, en tout cas dans les récits traditionnels, effectivement, on reprend aussi, vous l'avez dit, hein, le schéma du roman d'apprentissage avec l'idée de péripéties, d'événements, d'actions. Effectivement, ce sont des récits qui vont parler à notre envie de romanesque, d'individualisation, d'héroïsme. Après, il y a quand même des fois des tentatives de dépasser ça, d'avoir un jeu, une écriture à la première personne qui représente, qui est exemplaire. Et il y a des tentatives d'autres formes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont des récits qui se disent souvent révolutionnaires, subversifs d'un point de vue politique et esthétique, mais en réalité, leur forme reste effectivement assez traditionnelle.
Karina Biva, en quelques mots.
Oui, mais ça rejoint ce que vous disiez sur l'illusion biographique soulevée par Bourdieu, c'est-à-dire que la mise en récit va créer de la continuité, une direction, un chemin, et donc fatalement peut-être la réécriture des hasards, des contingences de la vie qui ne sont pas toujours aussi narrativisables que ce qui advient dans le récit final.
On va poursuivre cette discussion à 8h20 avec vous deux, Laëlia Véron, Karina Biva. On va aborder notamment les notions de trahison, de vengeance, de culpabilité, de politisation aussi, de l'expression transfuge de classe. Ce sera à 8h20.
France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
Et l'on revient ce matin sur une notion en vogue, je le disais, celle de transfuge de classe, pour tenter de l'interroger, ce qu'elle recouvre, les liens qu'elle entretient aussi avec l'écriture et les récits qui l'accompagnent, quelles critiques aussi lui adresser. On en parle avec Laëlia Véron et Karine Abivin. Elles sont toutes les deux maîtresses de conférences en langue française et stylistique, et elles publient ensemble un ouvrage important, je le disais, intitulé « Trahir et venger, paradoxe des récits de transfuge de classe ». C'est apparu aux éditions La Découverte. Est-ce que, allez, qui prendra cette question, je vous la lance, pour devenir transfuge de classe, est-ce qu'il faut être un héros de l'époque, ou plutôt pour devenir un héros de l'époque, est-ce qu'il faut être transfuge de classe? Est-ce qu'il faut mettre en récit ses douleurs passées, son parcours social?
En tout cas, ça devient une des figures de héros contemporains, peut-être de mythes contemporains. C'est l'ambiguïté de cette notion d'abord sociologique et puis qui finalement représente peut-être plutôt des aspirations, des rêves qu'une réalité sociale. Parce que on parle aussi dans notre livre justement des enquêtes de l'INSEE sur les craintes de déclassement social. C'est une crainte qui est quand même très répandue et au contraire, on voit une prolifération de ces récits d'ascension, de réussite et finalement avec des schémas assez traditionnels. Hein, ça se termine par des voyage autour du monde. Ça se termine par le conte de fées réalisé. Par exemple, Édouard Louis prend l'expression de conte de fées. On dirait, avec des variations, les récits de réussite sur LinkedIn.
Est-ce qu'une critique que l'on peut adresser à cette notion, celle de transfuge de classe, c'est qu'elle capte au fond, qu'elle empêche à d'autres thématiques d'exister, le féminisme, d'autres éléments de la vie que l'on aperçoit par conséquent beaucoup moins dans ces récits littéraires?
Alors, des fois, les récits de transfuge de classe, on leur a reproché ça, mais certains récits ont essayé d'intégrer ces notions. Par exemple, Rosemarie Lagrave, qui est sociologue, a beaucoup parlé du genre. On voit de plus en plus de récits de transfuges de classe qui vont intégrer la thématique de la race. Je pense à Kotar Archi qui fait une sorte de contre-récit de transfuges de classe, à Mabrouk Rachedi. Mais on peut se demander si ça va suffire à renouveler le récit et à dépasser certaines oppositions de simplement étoffer un peu l'analyse des dominations et la représentation des dominations. Parce qu'il y a une autre critique qui est faite, c'est le fait, la question du transfuge comme porte-parole des classes dominées et des classes populaires. Parce que c'est quand même quelqu'un qui en est parti, c'est quand même des récits d'ascension. Et très souvent justement d'ascension sociale et pas de déclassement. Et le ou la transfuge va se mettre très souvent en situation de porte-parole, mais qui l'autoproclame par rapport à ses parents qui seraient représentatifs d'une classe ouvrière. Et ça pose aussi une question de confiscation de la parole. Ça me fait penser, on le cite dans le livre, à un tweet de Philippe Poutou qui répondait à Anne Hidalgo qui disait « Je suis la seule dans cette campagne issue de la classe ouvrière » qui répondait en disant « Coucou, enchantée ». Est-ce qu'à force de parler de gens issus de classes populaires, eh ben, on ne parle plus des classes populaire elle-même ou elle ne parle plus elle-même.
Vous avez cité, Laëlia Véron, Rosemary Lagrave. On va l'entendre justement, elle était en 2022 dans les matins de France Culture.
Toute la sociologie ou les sciences sociales sont là pour mettre en critique ou dévoiler ce qui, a priori, n'est pas tellement visible dans un monde universitaire où le fait qu'on soit tous des pairs PAIRS fait qu'on devrait être tous égaux. Mais non, il y a des plus égaux que les autres. Les hiérarchies, les façons aisées de parler, les façons de rester entre soi, les habitus, l'alexis corporel, et toutes ces petites différences, ces petits riens qui vous remettent à la place et qui vous disent la place que vous occupez. J'arrive à comprendre comment, là d'où je viens, je ne pouvais pas être en une génération quelqu'un qui était en concurrence avec ceux qui ont trois générations d'héritiers derrière eux. Et il y a d'autres transfuges de classe. Si je prends Bourdieu, il vient aussi d'un milieu rural. Mais c'est un garçon, j'ose dire. Il a eu le privilège quand même des hommes dans le milieu universitaire. Tant et si bien qu'on voit bien que l'amplitude de parcours, Bourdieu venant d'un petit village du Béarn, mais professeur au Collège de France, et moi venant d'un petit village de 300 habitants de Normandie, et venant aussi à l'école des hautes études, c'est pas pareil. J'ai une amplitude moindre.
Karine Abivin, comment est-ce que vous analysez cette autocritique presque?
Alors Rosemary Lagrave, ce qu'elle entend mettre en lumière là, c'est l'originalité de son ouvrage, de son parcours et de son ouvrage à elle. C'est-à-dire que souvent jusqu'à elle, Bourdieu et Ribon, ce sont des hommes qui écrivent et des gens qui viennent de milieux, alors bon surtout Ribon, mais plutôt urbains, c'est-à-dire le milieu ouvrier en fait. Et que souvent l'idée de cette mobilité sociale, elle part de la ville, alors que elle entend aussi rendre compte d'un parcours plus rural, plus agricole, plus catholique aussi. C'est un de ses thèmes et féminin. Et ce qu'elle critique dans le discours de Bourdieu, c'est de dire, par exemple, Bourdieu, dans son auto-socio-analyse, il dit « j'étais bagarreur parce que les classes populaires sont comme ça ». Et elle dit, en fait, il y a aussi un biais de genre, c'est-à-dire que c'était aussi une expression d'une forme de masculinité et qu'on peut lire les choses autrement ou proposer d'autres modèles. Après, ce qu'elle dit aussi, enfin, ou ce qu'on peut entendre aussi, c'est qu'elle entend parler beaucoup de là où elle vient, et c'est l'intérêt du récit de filiation, du récit de soi, ou de l'auto-socio-analyse, mais pas tant de là où elle est arrivée finalement. Et que c'est aussi le récit de transfuge de classe, ce sont aussi des récits qui sont tournés vers le passé, un certain passé social de la France aussi, plus que vers le présent de
et
notre société.
Et très peu sur la description du milieu bourgeois ou du milieu plus aisé auquel ils appartiennent désormais.
Relativement peu. C'est vrai que c'est quelque chose qui est passé sous silence, en raison même du choix, encore une fois, d'un récit de mémoire. C'est des sortes de mémoires. Finalement. Et cette écriture, disons, mémorialiste, elle est nécessairement tournée vers le passé, en effet.
Et c'est un paradoxe aussi de ces récits qu'on emploie pour penser le présent et la société présente, et qui, de fait, sont tournés vers le passé, et qui vont parler très souvent des classes populaires et des luttes au passé. On a très souvent des images d'usines fermées, même si on a toujours certaines contre-exemples et variations. Et c'est vrai que le manque de critique du milieu d'arrivée, ça nous a frappés, notamment par rapport à l'ambition affichée de certains récits. Parce que nous, on est en analyse du discours, on essaye dans notre livre d'interroger la cohérence entre le méta-discours, le discours explicatif qui accompagne l'œuvre, qui est très souvent intégré dedans. J'écris, pourquoi j'écris, comment il faut me lire en train d'écrire ce que j'écris. C'est très très présent dans les récits de transfuges. Et très souvent, c'est des textes qui se disent extrêmement politiques, révolutionnaires, avec des images très fortes. L'écriture comme un couteau, venger ma race, venger les miens. Et qui vont effectivement tenter de réhabiliter le milieu d'origine, mais qui vont très peu critiquer, interroger pouvait représenter le milieu d'arrivée. Et est-ce qu'on peut vraiment se dire révolutionnaire, si tant est qu'on veuille être révolutionnaire, mais ces récits s'affirment comme ça, quand on ne remet pas en cause les deux pôles de la hiérarchie sociale, quand on veut effectivement réhabiliter le milieu d'origine, mais il y a peu d'auto-représentation et peut-être d'autocritique du milieu éditorial, du milieu culturel. Ça, on n'en parle jamais, alors que ce sont très souvent des trajectoires de bourgeoisie intellectuelle. Il y a encore quelques contre-exemples. Mabrouk Rachedi, que j'ai cité, va parler de parcours de transfuge économique. Et lui va faire une critique justement du milieu d'arrivée en disant bah, c'est pas parce qu'on est transfuge, qu'on vient d'un milieu populaire, qu'on ne peut pas mal se comporter, devenir une mauvaise personne. Il va beaucoup plus interroger le présent. Mais c'est peut-être plus facile à faire dans des parcours de transfuge économique. Dans le milieu littéraire, il y a quand même une sorte d'aura de la littérature qui serait pure, qu'il ne faut pas toucher, qui serait paradoxalement presque... On dirait qu'elle est représentée hors du monde social. J'ai eu accès à la parole, donc finalement tout est résolu, politiquement, socialement. C'est peut-être un peu plus complexe que ça, et on veut aussi appeler les lectrices et les lecteurs à avoir un peu de distance par rapport à ce métadiscours très très important, et faire preuve de réflexivité par rapport à cette réflexivité affichée.
Vous avez parlé un peu plus tôt, Laëlia Véron, de la compétition, non pas pour s'approprier une étiquette, celle de transfuge de classe, mais pour raconter une mobilité sociale, notamment entre Philippe Poutou et Anne Hidalgo. Il y a un passage très intéressant dans votre ouvrage qui raconte comment Neige Sino, dans Triste Tigre, parlant d'Annie Ernaux qu'elle apprécie beaucoup en tant qu'autrice reconnue, est notamment percutée par le fait qu'elle se dessine, qu'elle se raconte comme une transfuge de classe, parce que les parents d'Annie Ernaux étaient épiciers. Or, pour Neige Sino, des parents épiciers, c'est déjà un statut, non pas bourgeois, mais presque bourgeois, en tout cas qui vit dans le confort. Comment est-ce que vous expliquez, non pas cette compétition, mais ce rapport complexe entre personnes qui vivent, qui traversent le champ social, Karina Bivin?
Ce qui est intéressant chez Neige Sino, c'est qu'elle ajoute quelques pages plus tard, et en même temps, moi-même, je suis de la white trash, comme elle dit, donc un milieu très précaire, mais c'est déjà white. Et c'est donc elle a le privilège blanc, voilà. Et donc elle hiérarchise d'une certaine manière les précarités ou les dominations dans son ouvrage. Donc ça, c'est intéressant. Oui.
Mais est-ce que ça montre pas dans le fond qu'on est toujours le transfuge de classe de quelqu'un?
En tout cas, oui, ça montre, ça dépend toujours effectivement à partir quels critères on prend et à partir de quoi on se définit. Et on peut toujours se dire le transfuge de classe de quelqu'un. On peut toujours trouver des gens qui ont eu plus de ressources que nous. Et effectivement, des fois, ça fait des cécités sociales importantes avec des personnes qui vont penser avoir eu très peu de ressources. Mais c'est toujours effectivement par rapport à qui, par rapport à quoi.
En fait, la lecture de Neige Sino, elle est intéressante aussi parce qu'elle dit même si cette question, au fond, de la situation sociale du transfuge peut paraître inadéquate, etc., ce sont des récits qui peuvent parler à plusieurs et à beaucoup, en fait. Et c'est pas parce qu'on n'est pas soi-même transfuge de classe ou parce qu'on est plus précaire que ceux qui s'en prétendent que ces récits-là ne viennent pas toucher quelque chose d'une certaine violence du monde social malgré tout. Et ça, cette autrice le dit aussi.
La voix tutélaire que je voudrais vous faire entendre de ces récits de transfuge de classe.
Me trouver ici, 65 ans plus tard, me laisse dans un profond sentiment d'étonnement et de gratitude. Étonnement devant le mystère que représente un chemin de vie et une poursuite hasardeuse, solitaire, de l'écriture. Gratitude de m'avoir permis de rejoindre Camus et ses écrivains, disparus ou contemporains, que j'admire. Je voudrais aussi vous remercier au nom de ceux qui ne sont pas ici, ces hommes et ces femmes qui ont parfois trouvé dans mes livres des raisons de vivre et de lutter, de se sentir plus fière. En récompensant mon travail, vous m'obligez à encore plus d'exigence dans la recherche d'une réalité et d'une vérité partageable.
Vous l'avez reconnu, bien sûr, toutes les deux, la voix d'Annie Ernaux lors de son discours de réception du prix Nobel en 2022. Ce qui est intéressant dans ce fragment de discours, c'est qu'elle tente peut-être de politiser son propos, de politiser la notion de transfuge de classe, de passer d'un récit individuel, le sien, qu'elle a retranscrit des décennies durant dans ses livres nombreux, pour tenter de porter une parole plus large que la sienne, Laïla Véron.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a aussi une certaine ambivalence par rapport à ça, parce qu'à des moments, elle dit oui, l'étiquette de transfuge de classe, on a été des milliers à s'y reconnaître, des centaines de milliers. Au bout d'un moment, on peut se demander, mais c'est des parcours exceptionnels. Si on est des centaines de milliers à s'y reconnaître, qu'est-ce que ça veut dire, cette exceptionnalité? Est-ce qu'elle est encore réelle? Donc à des moments, elle va élargir, dire que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver. Et à des moments, au contraire, elle a conscience de ces limites-là. Dans ce même discours du Nobel, c'est là où elle dit « quand j'étais jeune, j'étais orgueilleuse, j'avais dit venger ma race, je pensais que ça suffisait. » Faire le lien entre l'individuel et le collectif, est-ce qu'il suffit de l'affirmer pour le faire? Est-ce qu'il suffit d'affirmer que c'est politique pour y arriver? Je n'en suis pas sûre. Elle parle d'une volonté de jeunesse naïve et orgueilleuse, je la cite. Donc, quand des auteurs, des autrices prétendent faire de la littérature politique ou de manière plus générale des récits politiques, il y a toujours cette volonté d'élargissement, d'exemplarité, d'aller vers un nous. On retrace dans le livre les différentes manières d'essayer de faire ce nous. Mais est-ce qu'on y arrive? C'est une autre question.
Est-ce que les transfuges de classe, une fois atteints un certain milieu plus aisé que celui où ils étaient au départ, sont critiques de ce milieu, de ce point d'arrivée, peut-être des codes de la bourgeoisie qu'ils tentent de saisir, de comprendre, de maîtriser?
Je pense qu'ils sont critiques dans leur processus d'apprentissage pour parler des moments qu'on appelle de violence symbolique, de honte, d'ignorance sociale. Ils vont être un peu critiques de ces codes-là dans ce parcours, mais une fois qu'ils l'ont maîtrisé, pas tellement. C'est encore peut-être un peu cette cécité sur les milieux d'arrivée.
Darina Bivan, vous êtes d'accord sur ce point ?
Je pense qu'on peut y voir aussi parfois une forme de il y a une pluralité de discours, on va dire, et de récits. Par exemple, chez Zernault, clairement, il y a une évolution aussi dans le ton, dans le style. Par exemple, dans les années, il y a une certaine ironie sur des mœurs post-68art qu'on dirait un peu bobo aujourd'hui. Donc, elle prend quand même du recul. Il y a une discrète satire, on va dire, du milieu d'arrivée. Mais ça n'est pas caustique, ça n'est pas très ironique. Et c'est, encore une fois, sans doute le choix du récit personnel qui veut ça. Dans une fiction, on a les mains beaucoup plus libres pour inventer une autre fin, par exemple. On a cité dans l'ouvrage Martin Eden de Jack London où, à la fin, enfin le héros qui se bat toute sa vie prolétaire pour réussir à accéder à l'écriture, il arrive enfin dans ce milieu dont il a découvert toutes les bassesses et l'arbitraire, etc. Et c'est trop tard pour lui, la reconnaissance arrive trop tard et il finit par suicider. Bon, dans la fiction, on peut inventer des choses plus violentes et plus fortes peut-être que à certains égards, en tout cas dans le récit. Toi.
L'autre point fondamental que met en lumière votre ouvrage qui s'intitule, je le rappelle, Trahir et venger, paradoxe des récits de transfuges de classe, c'est la culpabilité qui surgit chez ces transfuges de classe, culpabilité qui naît au moment où elles accèdent à un milieu, elles réalisent que l'écart qui s'est creusé entre leur milieu d'origine, leur famille d'origine, leurs proches aussi qu'elles fréquentaient, il était encore un temps, c'est absolument abyssal. Comment naît cette culpabilité et surtout quelle forme elle prend même dans les discours, dans les textes littéraires?
Ça, c'est la suspicion de trahison qui est inhérente au mot transfuge, qui vient du latin transfugere, passer de l'autre côté, trahir, aller notamment dans l'autre armée, l'autre camp. C'est pour ça qu'on a pris dans le titre Trahir et venger, parce que c'est une étape classique. La honte des siens, puis après la honte d'avoir eu honte, essayer de dépasser ce sentiment de trahison et d'aller vers l'idée de possible vengeance collective.
C'est toujours le même processus, toujours le même schéma. On a honte dans un premier temps, puis on réalise que cette honte nous fait honte.
C'est ça, c'est quand même extrêmement récurrent. Cette expression, la honte d'avoir eu honte, ça fait partie des étapes narratives et du vocabulaire qui est extrêmement commun à ces récits de transfuges. Et effectivement, une étape très commune, c'est le sentiment de culpabilité, d'avoir trahi son milieu social, de l'avoir abandonné. Culpabilité qui, dans beaucoup de récits de transfuges, est finalement dépassée assez commodément par l'accès à l'écriture, qui serait une rédemption, qui serait une manière de rendre hommage. Et finalement, là encore une fois, c'est une vision assez traditionnelle de la littérature comme rédemption. Ce qu'on peut aussi peut-être interroger, c'est le fait que l'insistance sur le sentiment de culpabilité dans les récits de transfuges les plus connus, elle n'est pas forcément une illustration de ce que montrent les enquêtes de terrain sociologique qui vont montrer qu'on peut tout à fait avoir une mobilité sociale heureuse, qu'il y a un temps d'adaptation. Je pense aux travaux de Paul Pasquali, de Julie Pagis. Et donc, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a une insistance autant dans les récits de transfuges sur la culpabilité.
Je voudrais vous faire entendre justement un récit de culpabilité.
Lorsque je lui parlais au téléphone, une fois ou deux par trimestre, souvent moins, ma mère me demandait : « Quand viens-tu nous voir ? » J'éludais, prétextant que j'étais très occupée et promettais de venir bientôt. Mais je n'en avais pas l'intention. J'avais fui ma famille et n'éprouvais aucune envie de la retrouver. De temps à autre, au cours de mes voyages à l'étranger, j'envoyais à mes parents une carte postale. Ultime effort pour maintenir un lien que je souhaitais le plus ténu possible. En écrivant l'adresse, je me demandais à quoi ressemblait l'endroit où ils habitaient. Je ne vins dans cette bourgade qu'après que mon père l'eut quitté pour être installé par ma mère dans une clinique accueillant des personnes frappées par la maladie d'Alzheimer, d'où il n'allait plus sortir. Je vins voir ma mère. Ce fut le début d'une réconciliation avec elle. Elle me parla beaucoup au cours de quelques visites que je lui rendis dans les mois qui suivirent. D'elle, de son enfance, de son adolescence, de son existence de femme mariée.
Un extrait du documentaire intitulé « Retour à Reims, fragment » de Jean-Gabriel Perriot, adapté du roman de Didier Héribon, narré par Adèle Haenel. Il faut nous dire ce que cet extrait raconte, Carina Bivin.
Alors, c'est très intéressant cet extrait parce qu'il nous montre que le récit transfuge de classe, il s'origine, on l'a dit, dans le récit de soi, mais dans le récit des siens, évidemment. C'est aussi un récit familial.
Un récit collectif?
Alors, c'est aussi un récit familial, en tout cas, parce que collectif, ça impliquerait la classe, et on peut dire que c'est aussi être transfuge, de sa famille, en fait. Et chez Héribon, comme chez Édouard Louis, il y a évidemment la question gay qui est centrale, et que la rupture du milieu d'origine, c'est aussi une rupture contre l'exclusion dont ils ont été victimes, disons, ou en tout cas c'est ainsi qu'ils avaient besoin de partir, en fait, en tout cas, du moins. Donc cette question très spécifique, elle explique aussi la fortune de Héribon et de Louis aux États-Unis, par exemple, où ce sont vraiment des figures très majeures de la pensée de cette écriture gay, de cette littérature gay. Ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, c'est le terme de réconciliation qui, on l'entend, arrive très tôt, en fait, parce que c'est le début de Retour à Reims, arrive très tôt dans le livre. Et donc, oui, les récits transfuges, ce sont des récits de trahison et peut-être de vengeance, mais aussi de réconciliation. C'est-à-dire que l'accession à l'écriture va être quelque chose qui représente une sorte d'apaisement, y compris dans les relations avec le milieu d'origine. Et enfin, cette question de la culpabilité, elle est intéressante au plan de la manière d'écrire, on va dire, parce qu'elle est consubstantielle à l'écriture autobiographique. On a parfois dit que l'autobiographie, depuis Rousseau, qui est pas le dernier des transfuges, qui est peut-être même le premier, était une sorte de scène judiciaire, et que dans l'autobiographie, on trouve très souvent le coupable, les témoins, et ça se raconte dans une parole de défense, de légitimation, parfois d'accusation.
Une dimension qui est intéressante dans les récits de transfuges de classe et qui interroge également, c'est qu'on peut avoir le sentiment que les vies modestes ne valent pas la peine d'être vécues au fond, qu'il faut arriver à un certain milieu, accéder à une certaine classe sociale pour trouver bonheur, émancipation et joie.
C'est un peu ambigu, les récits transfuges de ce point, parce que l'idée est quand même souvent de réhabiliter le milieu d'origine, de raconter des vies qui finalement auraient leur intérêt. On l'a entendu dans l'extrait d'Héribon, hein, ma mère m'a parlé, elle m'a raconté, et finalement je me suis rendu compte que son récit avait son intérêt et méritait d'être raconté. Donc il y a quand même l'idée de raconter ces vies minuscules, pourrait-on dire, et ce milieu d'origine, mais en même temps, effectivement, c'est aussi mélangé avec un type de récit beaucoup plus classique, de la très forte amplitude sociale, du très grand succès. Donc il y a un peu cette tension dans le récit de transfuge de classe entre, encore une fois, vouloir faire changer les catégories et reproduire certaines catégories traditionnelles.
Carina Bivin, en quelques mots.
En fait, c'est chez Camus, dans le premier homme, on trouve cette expression, les gens pauvres et précaires n'ont rien à raconter, le temps perdu n'est perdu pour les riches, allusion à Proust. Et Gérald Bronner, il reprend cette idée que les pauvres, au fond, n'ont pas d'histoire, et quelqu'un comme Robert Linhart, quelqu'un comme Robert Linhart dit au contraire, c'est vraiment un préjugé de riche de penser qu'il n'y a que les bourgeois qui ont quelque chose à raconter.
Merci à tous les deux d'être venus ce matin au micro de France Culture pour remonter à la source de cette notion de transfuge de classe. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Lalia Véron et Carina Bivin. Vous avez publié Trahir et Venger, paradoxe des récits de transfuge de classe. Cela a paru aux éditions La Découverte.